Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Marion Devevey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique vous-même. On va interroger ces choix de vie, de courte vie pour l'instant. Hein. Vous êtes toute jeune et vous venez de sortir un livre passionnant sur la science et ce dont nous privons en ignorant la science des pays du Sud, la science du Sud global. On va évidemment en parler. Vous m'avez donné rendez-vous à Valdilier.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Alors, j'ai la chance d'avoir un chalet familial ici, à Valdilier, et donc je viens de temps en temps pour me ressourcer ou pour écrire d'ailleurs une partie du livre. Elle a été écrite dans le chalet, ici.
Voilà, vous avez un nom contre-intuitif, hein.
Ouais,
de Vevey, vous n'êtes pas de Vevey, en fait.
Et non, c'est un piège.
C'est une famille genevoise, c'est ça?
J'ai grandi à Genève, maintenant je suis...
Vous avez de la curiosité scientifique, vous? Il doit quand même y avoir un lien avec Vevey dans cette famille. Vous avez cherché un peu?
On a cherché, mais sûrement pas. C'était de Vivès avant, notre nom. Et il a été modifié au fil du temps. Et puis maintenant, on ne sait pas trop, mais il n'y a sûrement pas... C'est une famille fribourgeoise, plutôt.
D'accord.
Donc, voilà. Plein d'endroits.
Bon, vous avez, je l'ai dit, fait des études scientifiques. Alors déjà... Est-ce qu'on peut péter définitivement le cliché des femmes et des sciences? On va évacuer le chapitre femmes avant de s'attaquer au Sud.
Oui, c'est aussi tout un grand sujet. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se recroisent. Je pense qu'on pourrait dire que je parle dans mon livre et qui pourrait être dit sur les femmes avec l'invisibilisation.
Changer les mots, hein, changer les mots Sud et mettre femmes à la place.
Exactement, ouais.
Un long combat. On a quand même un peu plus progressé sur le combat féminin que sur le combat du Sud, j'imagine.
Ouais.
Bon, on reviendra évidemment sur cet aspect Sud qui est le cœur de votre livre et qui est passionnant, mais du coup, je reste un petit peu sur cet aspect femme. Est-ce qu'on se sent encore, vous avez fait les PFL, un peu invité qui ne devrait pas être là, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est maintenant largement féminisé? Est-ce qu'il y a encore un petit malaise, une espèce de préconçu comme ça, ou plus du tout?
Alors, bon, déjà, j'ai fait mes études à Neuchâtel. J'ai beaucoup bougé. Après, oui. J'étais à l'Université de Lausanne, mais je n'ai pas fait le PFL. Mais sinon, je pense qu'on a beaucoup évolué. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes dans les sciences, mais ça dépend encore beaucoup des disciplines. Il y a certaines disciplines qui sont encore très masculinisées, ce qu'on appelle les STEM, hein, les mathématiques, ingénierie et tout ça. Et il y a encore des femmes, mais je pense que c'est plus subtil. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est encore dans des dynamiques de pouvoir un peu subtiles. Il y a encore beaucoup à combattre, même si ça va mieux.
Oui, j'ai croisé en effet. Vous avez fait des sciences psycho et ensuite primatologie, on va en parler.
Oui.
J'ai une autre invitée cet après-midi.
qui appelle le PFL.
Ça, c'est l'émission qu'on fait sans les notes, vous voyez.
Voilà. J'ai beaucoup bougé en plus, donc c'est dur de suivre.
Voilà, vous avez fait des études de primatologie,
ouais. Hein,
donc l'étude des primates, les grands singes, les
exactement.
Petits singes d'ailleurs, hein, peu importe. Mais c'est là que vous avez eu votre épiphanie
ouais.
sur le terrain en Ouganda. Racontez-nous ça.
Oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir plusieurs fois en Ouganda pour étudier les chimpanzés qui vivent à l'état sauvage là-bas. Et donc j'ai débarqué en Ouganda comme ça, alors que j'étais jamais allée en Ouganda avant. Et donc je suis arrivée avec toutes mes études, toutes mes connaissances, aussi humbles qu'elles soient. Et là, j'ai rencontré des personnes qui ont grandi là-bas, qui connaissent les chimpanzés sur le bout de leurs doigts parce que, oui, ils ont grandi dans les environs. Et c'était mes assistants. On le voit pas, mais je fais des guillemets en l'air.
Et qui ont fait des études, hein. C'est pas juste le gardien du parc.
Ça dépendait desquels.
Ouais.
Il y avait certaines personnes, donc les assistants locaux, ils n'ont pas fait d'études universitaires. Mais par contre, ils ont vraiment grandi avec les chimpanzés, c'est-à-dire à côté de la forêt. Et donc, ils les ont observés tous les jours depuis des décennies. Ils les connaissent énormément. Et puis, il y avait un peu cette connaissance plus pratique par rapport à moi, ma connaissance théorique, alors que j'avais jamais vu de chimpanzés sauvages avant de la première fois que j'y suis allée, quoi.
Et donc, vous vous êtes rendu compte, là, une espèce de, encore une fois, d'épiphanie, hein, de moment où vous dites, bon, ben moi, j'arrive avec ma science, je vais retourner chez moi, je vais écrire un article. Voilà, si j'ai du bol, il va être reconnu, connu. Peut-être qu'en passant, je vais leur piquer un peu de leur science à eux, sans le reconnaître. Et puis, au pire, bah, je vais ignorer ce qu'eux savent, sous prétexte que moi, j'arrive avec la science européenne, la science du Nord, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est souvent ce qui est fait. C'est ce qu'on appelle la science parachute. C'est qu'on arrive dans nous, Européens ou États-Uniens, enfin des personnes du Nord, qui arrivons au Sud avec notre parachute. Et on prend les données. Et après, on repart et on publie et on retourne en Europe. Et puis, les personnes qui sont au Sud ne savent même pas ce qu'on a publié, ce qu'on a appris. En général, on ne les cite pas, les gens qui étaient là dans les recherches scientifiques.
Un petit merci à mon guide.
Voilà, c'est ça à la fin. Mais ils ne sont en général pas co-auteurs des études. Maintenant, je l'ai vu quelques fois, mais ça reste très rare de faire ça. Et alors que, justement, ils ont des connaissances qui sont énormes, mais surtout qui sont différentes. Et je pense que c'est ça où là on perd énormément, c'est que il y a juste cette idée de perspective, le fait d'avoir grandi dans une autre culture fait qu'on a des idées différentes. Et c'est ce qu'on veut en science, c'est juste d'avoir ces nouvelles idées, des perspectives différentes. Et puis donc c'est que des richesses qu'on perd en retournant en Europe et en n'écoutant pas ce qui se passe au Sud.
Bon, et c'est là que vous passez de l'idée bienveillante, un peu boy scout ou jeune et pleine d'illusions, à quelque chose de complètement poussé. Vous avez disséqué le phénomène de la recherche scientifique, alors avec ce prisme évidemment, hein, avec cette idée de d'analyser pourquoi on se prive de tout un aspect des connaissances humaines. Et puis alors, ben voilà, il y a tout un chemin. Et moi, alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est colonialisme, quoi. On est encore dans un système colonial, avec un système scientifique qui est fait par les gens du Nord, pour les gens du Nord, et tout un business qui va avec, on va en parler. Mais c'est ça, quoi.
C'est ça, encore largement, on a des restes de toute une histoire des sciences, qui est une histoire qui est très longue, très compliquée, et qui est pleine de domination et de colonialisme, effectivement. Et puis, il reste encore plein de choses aujourd'hui dans le système scientifique.
Tiens, l'histoire des sciences a évolué avec le colonialisme. Hein. Voilà.
Oui, à la même période,
pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Voilà. On a trouvé des choses incroyables grâce au colonialisme. Et puis, on a imposé aussi à ces populations des systèmes infernaux. Alors, deux aspects, je le disais. D'abord, on se prive de tout un pan de la connaissance et on prive des scientifiques, parce que là, on parlait des gens qui vous accompagnent en primatologie, mais un des premiers trucs que le grand public, dont je fais partie, apprend en lisant votre livre, c'est qu'il existe une science ailleurs qu'aux États-Unis, en Europe et en Chine.
Oui,
On le sait pas, en fait. Pourquoi on le sait pas?
Alors, c'est un peu un cheminement qui s'accumule. Mais déjà, on n'en parle pas dans les sciences, dans les médias. On parle très peu de ce qui se passe dans les recherches. Quand on parle des pays du Sud, en général, c'est plus pour parler de la politique ou de la géopolitique surtout. Mais des sciences, on n'en parle jamais, alors qu'il y en a. Mais il y a aussi toute une accumulation d'un système scientifique qui décourage en fait les personnes issues de minorités, puisque à cause de ce système, la majorité vient du Nord. Qui décourage, que ce soit il y a beaucoup de choses psychologiques, par exemple un syndrome de l'imposteur qui est beaucoup plus grand chez des personnes qui sont dans des minorités, mais aussi tout ce qui est encouragement. En général, par exemple, les bourses, elles sont données à ceux qui ont déjà été privilégiés. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux comme ça.
Bon, vous faites une analyse du capitalisme, en fait.
Oui, il y a...
On prête aux riches. Ouais. Hein, si tu veux devenir riche, il faut déjà être riche. Ouais. La méritocratie dont on nous parle dans les sciences sociales, on peut avoir l'intuition fausse que c'est une vraie réalité dans les sciences. Hein. C'est-à-dire, tu as une bonne idée, elle sera reconnue. Elle sera reconnue. Mais non, en fait, on ne parle pas sur la même ligne, quoi.
Oui. Et croire en la méritocratie est un des plus grands piliers pour en fait détruire cette méritocratie, parce qu'on croit que c'est mérité, alors on n'essaye pas de lutter contre ces inégalités.
Aujourd'hui, quand je dis on apprend grâce à vous qu'il existe une science ailleurs, alors il faut bien comprendre le Sud global. Hein. On a parlé d'Afrique avec votre expérience en Ouganda. votre expérience fondatrice, mais voilà, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Asie, donc il y a même des sciences de pointe, en fait. Hein. Mais par le système, elles vont être invisibilisées, ou du moins avoir de grandes difficultés à trouver une visibilité. Et là, on arrive dans, on va en parler dans la deuxième partie, parce qu'on arrive à la fin de la première, mais on va l'aborder déjà. On est dans ce grand système très, très européen, qui a fait ses preuves de revues par les pairs, des grandes revues scientifiques. Et là, vous mettez le doigt alors dans une mafia, quoi. C'est incroyable.
Oui, c'est ça, c'est un peu une mafia. Je pense que le plus gros problème, c'est qu'on invisibilise donc toutes les personnes qui font des recherches dans le Sud, qui sont pourtant, qui existent, mais surtout toutes leurs idées et les thématiques qui peuvent être pertinentes pour le Sud, mais qui sont peut-être moins pour le Nord, et qu'on loupe à cause de ça. Tout le savoir global qu'on construit toute l'humanité ensemble, en fait, elle est complètement biaisée vers le Nord à cause de ces dynamiques.
Il y a un truc dans la médecine. Hein, moi, j'ai passé quelques années en Afrique et c'est là que j'ai appris que la malaria, par exemple, qui est la maladie qui tue le plus sur cette planète, bah, les recherches étaient beaucoup moins poussées que sur des maladies de niche européennes, simplement parce que les pays où sévit la malaria n'ont pas forcément les moyens de payer des médicaments issus de brevets ultra protégés, etc. Donc on en est là, quoi.
C'est ça.
On
et en plus, ça va. On y perd aussi, si on pense seulement de manière, disons, égoïste pour le Nord, avec le réchauffement climatique et les changements qu'on a, en fait, les maladies vont aussi venir chez nous. C'est le cas déjà de plein de zoonoses, etc. Il y a un brassage, donc on a meilleur temps de regarder un peu ce qui se passe aussi au Sud, même d'un point de vue égoïste.
D'ailleurs, on peut être dans une situation où on va trouver un truc incroyable sur le filtrage de l'eau, par exemple, ou sur des problématiques extrêmement concrètes qui vont peut-être sauver la vie ou améliorer la vie de millions de gens. Et c'est quelque chose qui va être totalement invisibilisé dans le monde de la mise en avant des découvertes scientifiques parce que ça ne vient pas du Nord, tout simplement.
Oui, ouais, c'est ça. On donne moins de fonds pour ce genre de bourse. Moi, je connais quelqu'un, un physicien qui travaillait sur les séismes et qui disait qu'il n'avait pas réussi à avoir des fonds pour continuer ses recherches parce que, tout simplement, ça n'était pas pertinent pour l'Europe. Alors que c'était très pertinent pour d'autres pays.
Il faut venir en Valais. Hein. On attend le Big One tout prochainement. Ça. Là, ça fait un peu plus d'un siècle. Et en général, c'est tous les siècles, hein, le gros tremblement de terre en Valais. Bon, Marion Devevet, c'est passionnant. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette émission pour continuer à parler de cela et de vos recherches.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Marion Devevet, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On marche à Valdilier, au bord de la Vièze. On l'entend d'ailleurs derrière nous. Voilà, on n'a pas de bol aujourd'hui. Hein. C'est temps un peu pluvieux comme ça.
Mais là, il ne pleut pas au moins.
Voilà, on est dans un moment printanier d'automne ou dans un moment automnal du printemps plutôt. Je parlais en fin de première partie de ce système des grandes revues scientifiques. Vous les appelez les Big Five, hein, ce qui a petite résonance avec le safari africain et les photos qu'on doit faire des fameux Big Five, hein, l'éléphant, le lion, etc. Alors, c'est Science, c'est Nature. Moi, je connais que ces deux-là parce que je suis un béotien, mais il y en a cinq. Quoi. En gros, très grandes maisons d'édition qui vont publier des articles scientifiques.
C'est ça, exactement. C'est un système qui est vraiment dominé par très peu de maisons d'édition scientifiques. Et les 10 premières maisons d'édition scientifiques publient plus de la moitié des publications scientifiques dans le monde entier. Et la chose, c'est qu'elles sont toutes basées en Europe ou en Amérique du Nord.
Et basées sur un système qu'on pourrait apparenter au système des brevets. Hein. C'est-à-dire qu'elles possèdent le savoir de celles et ceux qui ont trouvé des avancées scientifiques.
C'est ça. En général, pour pouvoir accéder à des publications scientifiques, il faut payer pour pouvoir y accéder, sauf ce qui est open access, ce qu'on appelle.
Ouais, c'est dingue, ça. Je le savais, mais c'était parti dans un coin de mon cerveau embrumé. Alors déjà, un scientifique est payé par son université, a priori. Donc, ce n'est pas ces maisons d'édition-là qui le payent pour sa trouvaille. Au contraire, il va devoir payer pour être publié. On va le faire relire par des pairs. Ça, c'est très bien. C'est la fameuse relecture par les pairs. C'est tout notre système qui est basé là-dessus. Ces pairs-là, ils ne sont pas payés non plus.
Pas du tout.
C'est pour faire avancer la science, c'est pour le beau geste. Par contre, alors ces maisons d'édition, une fois que tout cela est fait et qu'on valide, elles ne vont pas mettre ça en libre accès. Même l'auteur n'a pas accès finalement à son document final. Et il va y avoir des tickets d'entrée absolument invraisemblables pour pouvoir consulter ça, ce qui fait que seules les grandes universités prennent des abonnements, et donc les universités du Nord, et on est dans ce cercle vicieux.
C'est ça exactement, on reste vraiment dans un cercle vicieux où même la connaissance qu'on produit reste dans une bulle. Et maintenant, il faut éclater cette bulle, je pense, parce que... Ça a des biais,
même si on ignore le Sud quelques instants, ça a des biais, y compris pour la science des pays occidentaux, des pays avancés.
Exactement, c'est pour ça que c'est bien d'en parler.
Il y a des tas de scientifiques qui ne parviennent pas. Il y a aussi cette espèce de biais que vous décrivez de « il faut absolument publier, même si on n'a pas grand-chose à dire, il faut absolument être cité, même si la citation n'a pas beaucoup d'intérêt ». On est dans un système, finalement, qui se mange lui-même, quoi.
Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle aussi le « publish or perish », donc « publier ou périssez », qui est que pour les scientifiques, ils sont obligés de publier s'ils veulent continuer leur carrière, continuer d'avoir des fonds. Et ça fait qu'on crée en fait une connaissance qui est très peu révolutionnaire, parce qu'on n'a pas le temps de publier des grandes révolutions. On doit faire plein de petites publications. Donc en fait, on prend la même publication de quelqu'un d'autre en changeant une variable, etc. Ce qui fait qu'en fait, on découvre plus grand-chose et puis on n'est pas encouragé à faire des choses créatives, à tester des choses,
etc. Si on rajoute la couche association publique-privée dans la recherche, où la recherche fondamentale est de plus en plus délaissée parce qu'elle n'amène pas un gain immédiat. Par contre, la recherche pratique va être financée, encouragée. Ben là aussi, on perd tout un pan. C'est ce que vous décrivez, ça c'est l'état du monde. Et puis alors, on en rajoute évidemment une couche avec les pays du Sud. On a déjà dit que leur recherche était invisibilisée. Leurs scientifiques ont une vie de dingue. Je veux dire, un scientifique colombien, je crois que vous citez un exemple, qui doit venir à un colloque en Europe, c'est un enfer.
C'est ça, parce qu'il faut avoir des visas. C'est très particulier, le monde scientifique, le monde académique. C'est des petits contrats en général, donc il faut vraiment continuellement chercher des visas, pouvoir prouver qu'on a tel mandat, etc. Et puis pour venir pour une conférence, par exemple, c'est très difficile d'obtenir des visas. Donc ils sont continuellement en train de trouver des solutions. Ce que nous, Européens, nous, on va aux conférences et tout va bien.
Ouais, tranquillou.
Ouais.
Et puis il y a la dictature de la langue anglaise. Bon, ça c'est la langue de l'Empire,
évidemment.
Quoi. Hein. C'était le latin à une époque, c'est comme ça.
Exactement. Bon, ça, bien sûr, ça aide d'avoir une langue qui permette de communiquer.
Commune, ouais.
Voilà, moi, pour mon livre, j'ai parlé à des gens de l'autre bout de la planète. J'étais contente d'avoir une langue en commun quand même et pas devoir apprendre toutes les langues. Mais c'est sûr que ça crée des énormes biais parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est anglophone de langue maternelle pour écrire des papiers, des bourses ou pour faire des conférences. Et ça crée des biais énormes quand on arrive bien à partager ce qu'on fait.
Bon, on l'a évoqué, mais je le redis parce que c'est ça qui est essentiel dans votre livre, hein, c'est que c'est pas seulement une injustice, quoi. C'est pas seulement les pauvres pays du Sud, les méchants pays du Nord. C'est qu'on se prive de trucs incroyables. Et même dans la façon de penser, on peut avoir des façons de penser différentes. On le sait d'ailleurs en Chine qu'en Europe, en Afrique qu'en Europe, ne serait-ce que dans le rapport au vivant, à la nature, etc. Et on s'en prive totalement parce qu'on n'est pas dans ces codes-là.
C'est ça. C'est pour ça que j'ai mis comme titre du livre « Tout ce qu'il reste à découvrir ». Parce qu'en fait, c'est tout ce pan qu'on se prive et qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement une injustice humaine, c'est aussi tout ce savoir qu'on construit. Et si on s'ouvre un peu à ça, on va découvrir aussi de nouvelles thématiques, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire. Et en fait, ça ne peut qu'être enrichissant pour les sciences si on a un peu des points de vue. En fait, pour les sciences, c'est génial d'avoir quelqu'un qui bouscule les idées, quelqu'un qui pense différemment. On adore ça en tant que scientifique. Sauf que le système, on l'a dit, n'aide pas à penser différemment. Donc si on s'ouvre déjà à d'autres personnes, à d'autres cultures, ça, c'est déjà un premier pas pour ouvrir le cercle de la connaissance.
Vous avez une dernière partie consacrée aux solutions. C'est bien, c'est ce que doit faire... pas toujours souligner les problèmes. Moi j'ai eu l'impression que ça serait très très dur de changer ce système-là, quoi.
c'est sûr.
Mais quelles sont vos solutions?
Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager et qu'il y a quand même des choses à faire. Alors moi, j'ai rencontré des personnes qui ont mis en place déjà des projets. Il y a par exemple le projet Mazakane qui est plusieurs pays africains qui se mettent ensemble pour essayer de traduire des textes dans différentes langues africaines pour pouvoir avoir des intelligences artificielles de langage qui puissent être aussi dans leur langue, par exemple. Ça, c'est quelque chose. Et ils l'ont fait de manière collaborative. Et dans leur publication, on voit d'ailleurs que le premier auteur, c'est toujours un symbole, une sorte de A inversé, qui représente en fait la communauté. Et il n'y a plus cet aspect de premier auteur qui en fait va avoir toutes les citations et qui va pouvoir fleurir dans le système scientifique. Donc c'est un peu essayer de changer ce système. Et ça, c'est un exemple de projet où ils le font ensemble.
Bon, les solutions existent. Comme toujours, quand on commence à s'interroger un peu sur un système dominant, ben, c'est dans le collectif qu'on trouve des solutions. Moi, j'aimerais qu'on termine cette émission en parlant de la Chine. Parce que la Chine fait aujourd'hui partie des grandes, même si elle fait partie du Sud global d'un point de vue géopolitique, encore que ça se discute, mais elle fait aujourd'hui partie des grandes nations scientifiques, des grandes nations économiques, probablement la première puissance économique du monde, si ce n'est déjà fait dans pas longtemps. Est-ce que la Chine change quelque chose? Est-ce que le système scientifique chinois a plus d'égards avec le Sud, comme elle en a par exemple en matière géopolitique?
Je pense que ça change quelque chose. Effectivement, ils se sont développés très rapidement, ce qui a changé des équilibres, et ça, ce qui a aussi bouleversé un peu les sciences en Europe et surtout aux États-Unis, parce qu'il y a toute une compétition aussi entre pays qui crée un peu tous ces déséquilibres. Mais la Chine reste quand même très peu collaborative, donc je pense que ça ouvre de nouvelles portes vers d'autres manières de penser, effectivement, du fait que c'est des pays qui ont une culture différente de ce qu'on a l'habitude, nous. Mais il reste encore
en anglais,
très
les scientifiques chinois
En général, oui.
Oui.
Ouais. Donc, il y a quand même
ce système-là. Ils n'ont pas encore renversé ce système-là.
Non, ouais, ça, je pense que ça va peut-être prendre encore du temps.
Je pense qu'ils ont conscience que s'ils espèrent que le reste de la planète apprenne le chinois, ça va être, le mandarin, ouais, ça va être un petit peu long, hein. Un petit peu long.
Mais
et compliqué.
Je pense qu'ils restent encore très peu collaboratifs. Ils sont très portés sur le développement de la nation encore. Mmh. Ce qui est pour moi un grand frein dans cette ouverture des sciences et de la connaissance.
Moi, c'est dans notre vision que ça m'intéresse, parce que j'ai l'impression qu'on a vis-à-vis de la Chine aujourd'hui ce qu'on avait vis-à-vis du Japon il y a 40 ans ou 50 ans. Tout ce qui vient de chez eux est forcément pas terrible, construit n'importe comment, etc. Et ça a complètement changé. Ils sont à la pointe de choses incroyables, ils sont les premiers dans toute une série de domaines.
Ouais, ouais.
Et notre regard a du mal à changer, parce que ce qui caractérise l'Occident, c'est l'arrogance, peut-être.
Oui, qui est peut-être un des piliers de ces déséquilibres. C'est l'arrogance de penser que moi, mon savoir est supérieur aux autres savoirs. Et c'est de là que partout, toute l'enquête que j'ai faite dans mon livre, parce qu'au final, de penser que notre savoir est meilleur que les autres, c'est ça qui crée tous ces déséquilibres.
Bon, mais ça, en tout cas, j'espère que votre livre aura une résonance importante, parce que c'est vraiment fascinant. Ça participe justement d'une espèce d'ouverture. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus important pour le Nord, pour le Sud, ce livre.
Je pense qu'il a remis en question nos œillères
ouais, que ça. Pour permettre au Sud de se développer, ce qu'il a commencé à faire, je pense.
Oui, c'est ça. Je pense que ça, moi, au fil de cette enquête, ça a vraiment bousculé mes propres connaissances. Donc moi, j'ai grandi au Nord, hein. je suis suisse, donc c'est sûr que j'ai un point de vue déjà pas neutre là-dedans. Mais j'ai vraiment, dans le sens, sur mon regard, je ne viens pas du Sud. Mais donc ça m'a permis de déconstruire un peu des idées que j'avais et que je me rendais même pas compte que j'avais. C'est ça que je raconte aussi dans le livre.
Vous avez choisi la voie de la vulgarisation, de la publication d'ouvrages sur la science plutôt que de la science. C'est une voie qui vous plaît. Vous faites plein de trucs dans le journalisme, vous collaborez à plein de trucs, notamment à Terre et Nature, hein, qui est tout proche de notre Chablais, mais aussi le ID News, le Temps, la RTS, etc. Vous avez une jeune carrière, mais qui se développe de façon un peu fulgurante, là. On va terminer là-dessus.
Oui, c'est ça qui est super avec le journalisme scientifique, c'est qu'on peut faire plein de projets, de collaborer sur plein de manières de faire, je rencontre plein de scientifiques, j'apprends plein de choses. Non, cette diversité quand même est fabuleuse par rapport à la recherche où en général on se spécialise dans une thématique. Là, je couvre plein de choses et je peux aussi voyager. C'est super. Moi, j'adore.
Bon, ben, on vous souhaite le meilleur en tout cas. Pour la suite, tout ce qu'il reste à...
Découvrir,
c'est le titre de votre livre, édition Quanto, édition universitaire. Hein. Voilà, écrit de façon à ce que tout le monde puisse le lire et ouvrir un petit peu ses yeux sur ce monde-là. Merci à vous.
Merci beaucoup.